Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Décoloniser les villes européennes, la Belgique, état des lieux. Le processus de décolonisation en Afrique est un processus déjà relativement ancien. Il a commencé véritablement dans les années 1940, en particulier après la conférence panafricaine de Manchester, où les futurs dirigeants de l'Afrique indépendante, les Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, avaient dit « la colonisation c'est fini, maintenant nous voulons décoloniser ». Cette décolonisation pose une série de questions, puisque au plan de la souveraineté visible, au plan des symboles, au plan juridique, les pays africains sont effectivement indépendants, même si pour le reste, au niveau de l'économie, au niveau de la finance, au niveau quelquefois aussi de la représentation de soi, le processus de décolonisation n'est pas encore terminé, ou le processus d'indépendance n'est pas tout à fait accompli. Maintenant, il n'y a pas que l'Afrique. Il y a les pays qui ont colonisé l'Afrique, qui eux aussi, portent les traces parfois profondes de ce processus de colonisation. Cela se voit en particulier au niveau du mobilier urbain, au niveau des mentalités, au niveau des structures économiques et même au niveau du rapport que ces gens ont aujourd'hui encore sur le plan officiel ou sur le plan des organisations non gouvernementales avec les anciennes colonies. Alors prenons le cas de l'espace urbain tel qu'il se voit, où l'on se rend compte qu'il y a en effet beaucoup de traces. Un pays comme la Belgique, on n'en parle pas beaucoup, a été un grand pays colonisateur. À la fameuse conférence de Berlin, le seul pays qui soit sorti avec une colonie de cette conférence, c'est justement la Belgique, ou plutôt son roi, Léopold II, qui a reçu à titre de propriété privée ce qu'on appelait à l'époque l'État indépendant du Congo, qui est devenu le Congo belge, et aujourd'hui la République démocratique du Congo. Circuler en Belgique, vous verrez que un peu partout, à Bruxelles, à Liège, à Mons, à Gand, partout où vous irez, vous verrez qu'il y a des traces très visibles de la colonisation. Les noms de rues, les monuments, les noms de certains établissements commerciaux, et quelquefois même le nom d'entreprises qui portent encore les traces coloniales. C'est un peu tout cela que il serait bon de voir et de faire le point, en attendant qu'on fasse la même chose pour d'autres villes, au Portugal, en Espagne, en Allemagne, encore en Angleterre. Et pour ce faire, nous recevons à nos micros Calvin Soares, qui est professeur d'histoire, activiste, on peut dire, non, activiste culturel, social, politique. Expliquez un peu ce que vous faites.
Oui, effectivement, j'enseigne l'histoire et les sciences sociales dans le secondaire, ce qu'on appelle les Athénées ici. Mais je suis aussi membre du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Et je suis effectivement activiste en ce qui concerne les droits humains en général, mais surtout le lien entre, on va dire, les stéréotypes, les discriminations, les préjugés, mais aussi les questions de cohésion sociale ici en Europe, en lien avec la question de la mémoire de l'Afrique en général, la mémoire coloniale en particulier. Et donc, nous travaillons dans ce mouvement sur les questions que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la décolonisation de l'espace public, qui a, contrairement à ce qu'on pense, un impact réel sur les mentalités, mais aussi sur les institutions, sur la manière dont les institutions fonctionnent et sur la manière dont cette société perçoit l'Afrique encore aujourd'hui. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les gens ont un lien avec l'histoire qui fait qu'ils portent un regard encore colonisateur, un regard encore vicié sur l'Afrique d'aujourd'hui. Donc ça a un impact concret aujourd'hui et c'est pour ça que nous luttons au jour le jour pour que cette décolonisation de la société et des mentalités, espace public compris, puisse arriver.
Julien Trudayu, vous travaillez sur des problèmes très proches, mais en particulier sur un aspect sur lequel on n'insiste pas assez, notamment du côté des historiens, c'est que la colonisation, ce ne sont pas seulement des soldats, ce ne sont pas seulement des administrateurs, ce ne sont pas seulement des flux commerciaux, des flux financiers, c'est aussi des images, des discours, donc toute une propagande, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. À une époque, on disait une sorte de bourrage de crâne. Une propagande qui, dans le cas de la Belgique, c'est quand même très étonnant, commence un tout petit peu avant la conférence de Berlin et qui se prolonge en fait jusqu'à l'indépendance, alors que dans beaucoup d'autres pays, on avait arrêté à peu près vers 1945. Et très curieusement, on peut penser qu'elle continue encore après les indépendances. Cette question de la propagande, évidemment, est une question centrale.
Oui, elle est centrale. En plus, elle est d'autant plus centrale dans l'histoire coloniale belge que l'histoire coloniale belge n'a pas eu de césure dans le discours et ses représentations qu'on retrouve encore aujourd'hui. En 60, quand l'indépendance est arrachée par les Congolais et les Congolaises, la Belgique ne fait aucun travail de déconstruction. Elle le met au frigo, elle met dans les greniers toutes ces images et elle dorme pendant une trentaine, une quarantaine d'années, mais les esprits qui ont été forgés par cette propagande, les représentations, elles subsistent, et on commence tout juste aujourd'hui à ressortir ces images, à se poser des questions sur ces représentations, mais on sent bien que entre le discours des années 60 qui était celui de cette propagande coloniale depuis 1885 et comme vous l'avez dit depuis 1880 réellement, même avant, il n'y a pas eu de recherche, il y a eu un espèce de tabou vis-à-vis de la colonisation, une espèce d'amour haine sur cette histoire, qui fait que ce n'est qu'aujourd'hui que les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants posent des questions, demandent des comptes à leurs aïeux quand ils sont encore vivants, et donc du coup par là s'interrogent sur ces représentations. Donc oui, ce qu'on s'attache à faire, c'est essayer de reconnecter en fait cette histoire coloniale avec ce que font notamment Mémoire Coloniale, les militants de Mémoire Coloniale, sur se poser des questions. Et se poser des questions sur un monument qui raconte des choses aujourd'hui avec le contexte d'aujourd'hui, c'est reconnecter l'histoire coloniale et donc reconnecter ses représentations. Et ça nous paraît vraiment très très important à l'heure où, aujourd'hui, en Belgique, des jeunes gens noirs ont la citoyenneté belge, sont nés ici et doivent être considérés comme tels.
On a l'impression aussi que dans un certain nombre de pays, je ne dirais pas qu'il y ait une sorte de honte a posteriori de la colonisation, mais on a essayé de dissimuler les choses ou de changer les choses en profitant, par exemple, des opérations immobilières pour changer les images. Mais ici, en Belgique, prenons le cas de Bruxelles, que tout le monde connaît comme la capitale de l'Union européenne. On est frappé par le fait que beaucoup de monuments sont des monuments de l'époque coloniale et dans des lieux tout à fait stratégiques de la capitale. On peut dire un mot de ces monuments parce que certains d'entre eux choquent des gens, soit des Africains, soit même un certain nombre d'Européens qui ont une culture élargie, qui s'étonnent que des personnages, des personnalités très connues ou moins connues soient encore présents en Belgique, alors que dans l'histoire, on a montré qu'ils avaient sur le dos des crimes ou des fautes d'une extrême gravité.
D'abord, il faut préciser que la propagande coloniale, comme vous l'avez précisé au début, la Belgique est l'une des puissances colonisatrices qui a mis en place une des propagandes les plus puissantes, qui a le plus marqué les esprits et qui a le plus marqué son espace public aussi. Donc c'est logique qu'on retrouve un peu partout, pas seulement à Bruxelles énormément, dans tous les coins de Bruxelles, mais aussi dans toute la Belgique, ces monuments, ces infrastructures, ces noms de rues, ces plaques commémoratives, ces bâtiments, etc. Alors, Julien l'a rappelé, le problème de la Belgique, c'est qu'à partir du discours de Lumumba, on est passé de la propagande au déni complet. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que si vous arrivez à Bruxelles et que vous passez auprès de tous les monuments touristiques, vous avez des petits écriteaux verts où on explique d'où vient le monument ou l'infrastructure en question, qui en a été l'architecte, etc., etc. Quelle est finalement la destination historique de ce bâtiment ? Vous ne verrez rien sur la colonisation. Absolument rien. C'est illustratif de ce déni dans lequel les autorités belges de l'époque ont plongé la population. Donc vous avez toute une génération qui a aujourd'hui 80 ans, 70 ans, 80 ans, qui ont connu la propagande. Et puis après, plus rien. Et pour parler des monuments et des infrastructures concrètement, alors celui qui fait le plus polémique, c'est la statue équestre de Léopold II, qui se situe en plein quartier du trône, donc à quelques pas de ce fameux quartier, le quartier Matongué, qui est le quartier afro-descendant. Pourquoi fait-il polémique? D'abord parce qu'il illustre un personnage dont toute la lumière n'a pas été faite, finalement, sur cet État indépendant du Congo, qui était sa propriété privée, où il y a eu le plus d'exactions. Il y a des livres qui sortent actuellement, qui sont déjà sortis, qui ont fait le lien entre les exactions qui ont été commises, les massacres. Pour nous, ce sont des crimes contre l'humanité qui ont été commis et son pouvoir politique à l'époque. Donc, quand des gens passent devant, quand un touriste qui ne connaît pas cette histoire passe devant cette statue qui est monumentale, qu'est-ce qu'il se dit? On voit un roi en majesté qui a une certaine bonhomie, qui a aussi une certaine élégance et une force. Et donc, on se dit, voilà un roi bienfaiteur, c'est l'image implicite que ça donne, en fait. Et donc, cette image pose polémique parce que aujourd'hui, les études montrent de plus en plus que les exactions qui ont été commises ont été nombreuses. Il y a eu énormément de morts, d'atrocités qui ont été commises durant sa direction politique de l'État indépendant du Congo. On peut également prendre le cas du monument du Congo au cinquantenaire, où vous avez là la quintessence même de la propagande coloniale. C'est-à-dire que vous avez des fresques qui expliquent que le Congo, représenté par une femme noire, doit dire merci à la Belgique, représentée par une femme blanche, pour lui avoir apporté la civilisation. Donc vous avez tout ça dans l'espace public et ce n'est pas contextualisé. Donc, vous avez également des noms de rue. Par exemple, en Belgique, on a un homme qui est honoré, le commandant Le Maire, qui est connu pour avoir enfumé 179 résistants congolais à l'État indépendant du Congo dans une grotte. Il a bloqué la grotte et il a bouté le feu à la grotte. Et 179 personnes sont mortes. Heureusement, aujourd'hui, dans la société civile, il y a une prise de conscience, pas seulement chez les Noirs, évidemment, en premier lieu chez les Noirs, les Afro-descendants du Congo et d'autres pays. Mais il y a aussi une prise de conscience chez les Blancs. Et donc, par exemple, sur ce fait précis, le commandant Le Maire, il y a un monsieur Jean-Pierre Grier qui est en train de faire un film d'animation pour les tout-petits sur cette histoire. Le souci que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les institutions elles-mêmes ne prennent pas conscience de ce que c'est en termes d'aliénation mentale. Et donc, il a fallu, ça fait des années qu'on en parle, il a fallu Charlottesville, il a fallu un certain nombre de faits précis, notamment on crée autour de ces monuments des actions un peu coup de poing. Et c'est dommage qu'on en arrive là pour que l'État et les institutions puissent finalement prendre conscience. Donc, pour parler du commandant Le Maire, pour finir sur lui, il est encore honoré. Alors que l'une des rares commissions d'enquête parlementaire de ce pays à l'époque, en 1904 et en 1905, c'est l'un des rares à avoir été condamné, même si nous trouvons ses conclusions complètement très légères. C'est l'un des rares à avoir été condamné. Et pourtant, il est encore célébré dans l'espace public. Si on peut dire que pour certains monuments, certaines infrastructures, on peut les contextualiser, lui, en l'occurrence, l'État a reconnu qu'il a commis des atrocités et il doit être enlevé de l'espace public, très concrètement. Et donc, on peut multiplier les exemples à l'appel, mais voilà un peu les défis auxquels nous faisons face. Et dernière chose sur Mons. À Mons, où le bourgmestre, le maire, comme on dit chez les Français, le maire est l'ancien Premier ministre Elio Di Rupo. Il faut rappeler que nous avons lutté pour qu'il y ait une plaque commémorative en l'honneur de Patrice Lumumba, là, dans cette commune. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande fresque qui glorifie les colons. Et donc, quand on entre dans le bâtiment de la mairie, on le voit, on ne le rate pas. Et le problème aussi, c'est que chaque année, cette fresque est fleurie. Donc, des enfants vont fleurir cette fresque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on transmet à ces enfants cette aliénation coloniale et on la perpétue à travers les enfants. Et donc, il faut décoloniser, y y compris l'enseignement, dès le bas âge.
Alors donc, ce qu'on dit là est important. Il y a tout cette des choses qui datent d'autrefois, mais qui sont réactualisées chaque année, notamment à l'occasion des anniversaires. Donc à Bruxelles, c'est bien d'avoir parlé de Mons, une des grandes villes francophones, mais dans la partie flamande, on trouve également des choses comparables. Et l'une des autres choses, Julien Trudeau, sur lesquelles vous travaillez, c'est que il y a ces monuments visibles, on peut encore ajouter des exemples, et puis il y a toute une infrastructure immobilière extrêmement importante qui souvent n'a pas beaucoup changé. La plupart des gens passent devant, admirent quelquefois l'architecture, la décoration, sans savoir que ça a été des lieux tout à fait essentiels dans la gestion de la colonisation léopoldienne et belge au Congo.
Alors en effet, il y a ensuite un second type qui est encore plus pernicieux, qui est l'espace semi-public. Il y a un exemple significatif ici à Bruxelles, c'est la maison Lever, la Lever House, qui est rue Royale, donc c'est une des artères les plus grandes, fréquentées de Bruxelles. Et le baron Lever, qui va fonder donc l'huilerie du Congo belge avec l'assentiment, il faut le rappeler, du gouvernement belge de l'époque, l'assentiment y compris du parti de gauche de l'époque, le socialiste Émile Van de Velde va aider à ce qu'il y ait une acceptation par le ministre des colonies des concessions Lever. On sait aujourd'hui que les concessions Lever, c'était des camps de travail à ciel ouvert, qu'ils ont fait l'objet de rapports de ce propre ministère des colonies, rapports scandaleux. Quand on les lit aujourd'hui, on lit ça avec effroi. Que cette société Unilever existe toujours, qu'elle n'a jamais été inquiétée. Alors, je parle de ça pour revenir à ce bâtiment rue Royale qui a longtemps été la maison mère, les bureaux de la maison Lever, et avec ce petit côté un peu piquant qui est que on avait imaginé cette maison, mais on avait aussi imaginé un musée qui pourrait être un espèce de petit musée de Tervuren en plein centre de Bruxelles, mais on avait aussi imaginé un cinéma pour accueillir des scolaires, pour accueillir des classes du quartier, de la ville. Et ce truc-là a fonctionné plein tube jusque les années 50, sans que ça gêne grandement personne, puisque c'était c'est ce qu'on faisait à l'époque. Donc on présentait les activités de Lever, on présentait la colonisation, on la glorifiait. Et ce qui est assez symptomatique, c'est que cette maison va être cédée à l'État à l'époque, hein, puisque l'État avait compétence sur l'enseignement, et elle va devenir un lieu d'enseignement. Depuis, l'enseignement a été régionalisé, elle appartient donc aujourd'hui à une entité publique, hein, la Fédération Wallonie-Bruxelles, et elle accueille une école d'ingénieurs tous les jours, donc il y a une centaine de personnes qui rentrent là. Petit problème, c'est que l'intérieur a très peu changé, la maison est dans un état assez vétuste, et quand on rentre dans le hall, on a vraiment l'impression d'être dans la rotonde du musée de l'Afrique centrale à Tervuren. Et surtout, on a cette impression, puisqu'il y a à gauche et à droite deux personnages, deux moulages de Congolais, un Congolais et une Congolaise, coupeurs de palmes. Et pour l'anecdote, quand on téléphone à la direction de la maison pour leur dire on voudrait visiter la maison, parce que visiblement vous avez des vestiges coloniaux à l'intérieur, la réponse est « Ah bon, de quoi nous parlez-vous » Et c'est symptomatique de se dire que des jeunes gens vont rentrer là, qu'ils ont eu même pas deux heures de cours sur la colonisation, et qu'ils vont tourner la tête vers une représentation qui en dit long sur ce qu'on pensait à l'époque, mais qui en dit long du coup sur ce qu'on en pense aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas remise en question, alors que ces deux moulages devraient retourner au musée d'Afrique centrale, être contextualisés au minimum, voire rejoindre les collections dans les caves du musée. Et je voudrais donner un dernier exemple qui me semble très important. Il y a dans... en région wallonne, dans un parc, une société de restauration qui a racheté un vestige de la colonisation qui a été érigé par la Belgique lors de l'expo coloniale de 1931, qui s'appelait, comme on l'appelait à l'époque lors des expos coloniales, le pavillon du Congo belge. Ce pavillon a été racheté des années plus tard, puisqu'il avait été conservé par un collectionneur, par cette société qui l'a remonté dans un parc et qui en fait aujourd'hui une espèce d'attraction soi-disant africaine pour accueillir des baptêmes, des réunions de travail, etc. Alors voilà quelque chose d'assez aussi symptomatique et qui en dit long sur l'état d'esprit dans lequel la Belgique baigne. On loue le pavillon du Congo belge pour passer des moments soi-disant ethnicisants, africains, dans un parc en Belgique. Ça en dit long sur l'état de la colonialité en Belgique et ce qui reste encore à travailler là-dessus.
Colonisation passée juridiquement, mais colonisation toujours présente. Merci d'avoir suivi cette émission Mémoire d'un continent. Nous nous retrouverons bientôt. Émission réalisée par Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat